Ce matin, ça pourra nous être bénéfique de réfléchir premièrement à deux phrases qui sont les deux de l'apôtre Paul, les entendre en parallèle, et puis en troisième partie, la suite de la deuxième, si vous voulez. La première phrase, c'est dans Galates 2, verset 20. Les deux, c'est connu. Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Moi. Et la deuxième, Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et la suite, un peu plus loin de la deuxième, c'est le verset 27, pour la purifier, sanctifier, pour se la présenter à lui-même. Donc, si vous voulez, là je donne le plan de ce qu'il me semble devoir partager ce matin. Christ m'a aimé, moi. Mais il y a plus important que moi. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et finalement, il y a plus important que l'Église, puisque son existence même a pour but d'être présentée à Christ. Voilà les trois parties, si vous voulez. Moi, l'Église, Christ. Et vous aurez remarqué, c'est par ordre d'importance inversé. C'est-à-dire, on commence par le plus personnel, le plus, ben moi, ben forcément, qui c'est le plus proche de moi? C'est moi. Et puis, après, plus large, et puis finalement, la raison d'être ultime de tout, Christ. Donc moi, l'Église, Christ. Et on sait qu'en vérité, de la part de Dieu et d'en haut, c'est premièrement Christ qui a prédestiné l'Église dans laquelle il me donne place. Alors, évidemment, la première partie, je vais passer moins vite, plus vite, pardon, moins longuement, parce que, bon, déjà parce que ce sont des accents qui sont très fréquents dans l'encouragement et même dans la Bible. Et parler un peu plus de la deuxième, puisque je sais que toute la période actuelle, vous vous nourrissez, vous êtes enseigné au sujet de l'Église. Voilà. Et bien sûr, je ne pourrais pas m'arrêter à la fin de la deuxième partie, il faut absolument arriver à la troisième, la raison d'être de l'Église. Alors, Galates 2, verset 20, je lis le verset entier là, parce qu'en fait, il contient, si vous voulez, à la fois, pardon, je lis, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant, littéralement, dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré. Alors, non, je dépends. Pourquoi ça commence? Je suis crucifié avec Christ. En fait, vous aurez remarqué, le verset commence pas par Christ m'a aimé, mais par je suis crucifié avec Christ. Parce que ça dit tout de suite que bien que Dieu ait focalisé son amour sur moi, ma personne, c'est impressionnant. Et qui suis-je, comme c'est écrit, hein, qui suis-je pour que l'Éternel me regarde? Donc, bien qu'il ait focalisé son amour sur moi, je ne serai vraiment ce qu'il veut que crucifié et ressuscité, que si Christ vit en moi. Et qu'est-ce que ça veut dire crucifié avec Christ? Ça veut dire tout simplement que Dieu, par son esprit, m'a appliqué le bénéfice de la crucifixion de Jésus. Puisque nous le savons tous, quand Jésus a été crucifié, il n'a pas été pour lui. Quand Paul écrit, il s'est livré pour moi, ça veut dire livré à la mort, livré au châtiment de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il est juste aussi de le dire au singulier. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc quand il est crucifié, c'est comme mon substitut, c'est-à-dire celui qui a pris ma place. D'accord. Donc, pour vraiment vivre, pour que je vive maintenant dans la chair, ici, chair, ça ne signifie pas le penchant au mal, mais le corps physique. Ce que je vis maintenant, ici, sur cette terre, dans ce corps, étant un corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, attaché à lui, en confiance avec lui. C'est comme ça que je me rends compte qu'il vit en moi. Étrange c'était cette phrase, ce n'est plus moi qui vis. Et tout de suite après il dit, ce que je vis dans la chair. Non, oui, je vis, ce n'est plus moi qui vis. On le sait, les mots de la Bible doivent signifier pour nous ce qu'ils ont signifié pour leur auteur. Donc, ce n'est plus moi qui vis, ça ne veut pas dire je veux m'éteindre, je veux m'étouffer moi-même. Vous comprenez, la foi chrétienne n'est pas un suicide existentiel, ce n'est pas une autodestruction, ce n'est pas la guerre permanente contre le moi, puisqu'il s'est livré pour moi. Vous comprenez, moi, ma personne, même... Alors que pécheur n'est pas encore dans la foi, le but de Dieu, c'est pas de le détruire. Alors il dit clairement qu'il détruira ceux qui, jusqu'au bout, rejetteront son fils. Et on le comprendra mieux vers la fin de la prédication, puisque son fils est le but, est son but ultime. Son fils est le centre, le pivot de tout son dessein, c'est-à-dire de toute sa volonté, toute sa... Donc, ce n'est plus moi qui vis, ça ne veut pas dire je vais m'éteindre. Ça, c'est le bouddhisme. Hein. L'objectif, c'est l'extinction. Et de se fondre dans un grand tout, où l'individu n'existe plus. Donc, ça, c'est pas du tout ce que c'est à l'opposé absolu de ce que la Bible enseigne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est plus moi qui vis? Eh bien, ça veut dire... Puisqu'il dit juste derrière, je vis. Ça veut dire je vis, mais transpercé par la croix de Jésus. Transpercé par la croix de Jésus. Et c'est pour ça que ce magnifique verset où nous lisons, Christ, le Fils de Dieu, m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ce magnifique verset commence par « Je suis crucifié avec Christ ». Ça veut dire que, nous le savons, le chrétien, il continue à être tenté. Le chrétien peut avoir un penchant à la jalousie, à l'adultère, à la cupidité, au mépris. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire « Je suis crucifié avec Christ » ? Ça veut dire que je suis un jaloux abstinent, un adultère abstinent. Vous me suivez? Voilà. Qui, l'apôtre Jean est très clair. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, à moi la jalousie ne m'effleure même pas. Alors oui, peut-être que la jalousie ne t'effleure même pas. Mais peut-être que l'ingratitude, ça colle vite, hein. Eh bien, sois un ingrat abstinent. Et qu'est-ce qui le rend abstinent? Comment je peux, Seigneur? C'est la croix, c'est la croix de Jésus qui transperce. Et elle dit, en disant, si vous voulez, l'apôtre Paul, en nous enseignant, c'est Dieu qui nous enseigne ça, pas à travers ce que Paul a écrit, il nous donne quelle est la puissance, la vertu qui fait que tout en, entendons bien, tout en étant complètement paisible avec le fait que c'est bien moi que Jésus a aimé, que je compte, tout en étant paisible avec ça, moi, je suis clairement convaincu de ne pas être le centre de tout et le but de tout. Et quand est-ce que le chrétien peut être ingrat, non abstinent, jaloux, non abstinent, convoiteur, non abstinent, adultère, non abstinent, quand il se vit comme le but, comme le centre. Donc Dieu dit qu'il a donné mon fils pour toi, tu comptes, et le diable voudrait que je torde ça en je suis le centre de tout, le but de tout. Jésus n'est que le moyen. Je le formule de manière bizarre, mais c'est volontaire. Jésus n'est pas ultimement le moyen de mon salut. Il est le but central de Dieu et je suis bénéficiaire de ça. Et ici, le commandement à la fois ancien et nouveau d'aimer son frère m'aide tellement à me décentrer de moi-même. C'est pour ça que j'en dis, celui qui dit aimer Dieu, qui ne voit pas, et s'il a de la haine pour son frère, qu'il voit, voyez, parce que c'est concret. En t'aimant toi, dans les moments faciles, mais dans les moments où ça devient difficile, je suis dans une musculation quotidienne de l'humilité et du décentrage de soi. Donc, vous comprenez? Jésus emploie des termes très forts. Par exemple, quand on lit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un veut être mon disciple ou me suivre, il le dit plusieurs fois avec les mots, divers mots, qu'il renonce à lui-même, on a en français. Littéralement, il est écrit qu'il se renie lui-même. Mais attention, les mots de la Bible doivent signifier pour nous ce qu'ils signifiaient pour leur auteur. Quand Jésus dit qu'il se renie lui-même, ça ne veut pas dire qu'il part en guerre contre soi-même. Ça ne parle pas d'un suicide moral ou existentiel. Mais ça veut simplement dire, jusque-là, j'étais le centre, j'étais le roi. Eh bien, ça, il faut le renier. C'est une abdication. Le petit roi abdique. Éphésiens 5. La façon dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 5 de l'amour de Christ pour l'Église cette fois-ci. Et si vous voulez, il en parle en faisant une comparaison entre un mari et son épouse. D'accord. Donc 25. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, c'est la même phrase. La suite, on le lira après si vous voulez bien. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Il y a plus important que moi. Ou du moins, plus ample, plus... Voilà. Si on peut faire une formulation qui conviendra à tous. Il y a plus que moi. Voilà, si vous voulez. Jésus dit dans Jean chapitre 10, le chapitre du bon berger, je connais mes brebis. Et en disant brebis, c'est forcément une, forcément. Une brebis, ce n'est pas un collectif, c'est une. Donc si vous voulez, chaque brebis peut dire moi. Et on sait que ça prend beaucoup de place dans l'écriture, les jeux, dans les psaumes, il y a beaucoup de jeux. Pas des jeux où on joue, même si c'est dit d'Abraham, et enfin, par-ci, par-là, un petit peu, c'est dit dans la Bible, mais je, moi. Donc Jésus dit, je connais mes brebis. Et puis Jean 10, verset 14, deux versets plus loin, il y aura un seul troupeau. Paul écrit aux Corinthiens, dans la deuxième lettre de Corinthiens 11, verset 2, « Je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ, un seul époux, comme une vierge pure. » Et là, c'est le collectif. Je ne suis pas la fiancée du Seigneur Jésus. C'est l'Église qui est sa fiancée. Et pas spécifiquement cette Église-ci ou l'autre. À Marguerite même, il y en a une autre. Et plus d'une peut-être, probablement. C'est le corps de Christ entier. Ceux qui sont déjà décédés depuis bientôt 2000 ans et plus en vérité, puisque les rachetés de l'ancienne alliance sont aussi, c'est le sacrifice de Christ qui fait leur salut. Ce que Pierre écrit noir sur blanc, quand les prophètes parlaient, c'est l'Esprit de Christ qui était en eux, et ils ont fait tout l'effort, ils ont fait des investigations pour voir à quand et à qui s'appliquait ce salut. C'est incroyable, hein, dans la première lettre de Pierre au chapitre 1er. Je ne suis pas la fiancée. Alors ici, une petite parenthèse s'impose. Sauf erreur, si je ne me trompe pas, ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne parlent de l'épouse au présent. C'est au futur. Au présent, c'est le mot fiancé. Et c'est très parlant. C'est très, très parlant. Ça dit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais c'est les noces de l'agneau. Vous comprenez, hein? Quand Jésus revient, etc. Mais je referme la parenthèse. Je ne suis pas la fiancée. C'est l'Église qui est la fiancée. Et c'est bien sûr exprès, intentionnellement, que le Saint-Esprit fait écrire le même mot « église » pour désigner une église locale et pour désigner le tout. Ça nous aurait probablement arrangé. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où ça m'aurait arrangé qu'il y ait deux mots distincts, hein, parce que j'aurais pu avoir un amour, une tendresse immense pour l'église universelle et j'aurais pu m'autoriser moins pour l'église locale. Mais je ne peux pas. Alors, dans l'Ancien Testament, donc Deutéronome 7, verset 6, l'Éternel dit, enfin c'est Moïse qui le dit de la part de Dieu, Deutéronome 7, verset 6, Moïse le dit de la part de l'Éternel à Israël. Oui, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. J'ai voulu lire le début aussi. Ensuite, dans Éphésiens, on verra que Jésus sanctifie son Église. Et je continue dans Deutéronome. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc il y a cette distinction. Mais là, pour ce matin, retenons, t'as choisi pour que tu sois un peuple. Alors, il y a deux choses à noter. Je commence par la deuxième. Il faut l'entendre, c'est tellement beau, ce « tu » collectif. Vous voyez, que tu sois un peuple. C'est logique, si Dieu dit « tu », c'est moi. S'il dit « vous », c'est l'Église. À relever que les « vous », si nombreux dans les épîtres, vous êtes le corps de Christ, vous, etc., etc. Hein. Ne mentez pas les uns aux autres, ou que sais-je. Les « vous » si nombreux désignent le collectif. Évidemment, n'écarte pas l'individu, mais ne désigne pas simplement une neutre addition d'individus. Vous voyez ? Alors, pour que tu sois un peuple, et donc, et tout de suite, la troisième partie de la prédication qui est dite là, déjà que Moïse, qui lui appartiennent en propre. Le but est là. Ce n'est pas juste être un peuple. Ça y est, on est un peuple. On est quelqu'un. Ah ben oui, attention, c'est bientôt Babel là. Faisons-nous un nom. Voyez ? Afin que nous ne soyons pas dispersés. Voilà. Donc, et que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre. Et maintenant, la même chose dans Tite 2. Tite. Tite, chapitre 2, donc juste après Timothée. Verset 14. 14. Bon, allez, 13. Non, je peux pas, j'allais remonter encore, mais... En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Le but est rappelé et posé, tout le temps reposé. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et la même chose. Il nous a rachetés. Alors, la première lecture peut être, assez logiquement, nous, c'est-à-dire toi plus elle, plus moi, plus... Vous comprenez ? Il nous a rachetés un par un, etc., pour se faire un peuple qui lui appartienne. Oui. Ah, qui lui appartienne, oui, là, il n'y a aucun bémol. Mais est-ce que le peuple de Dieu, l'Église de Christ, universelle, de tout temps, tout lieu, et qui restera éternelle. Ça, c'est simple et vrai, mais c'est... Est-ce que l'Église de Dieu est le résultat de l'addition des individus seulement, ou je dirais premièrement? Dans la Bible, ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout que l'idée « il nous a rachetés pour se faire un peuple » signifie « il a pris des gens, un par un, et puis ayant trouvé ceux qu'il voulait, il les a agglomérés. » Il semblerait, alors l'idée est juste, hein, mais il semblerait que il y ait une idée, une réalité en amont de ça, c'est qu'il a élu un collectif. Et que, par conséquence, il est allé racheter un par un des élus. C'est ce que Moïse dit en tout cas. L'Éternel t'a choisi, et il ne parle pas à une personne. Il parle à un peuple. Autrement dit, l'élection est collective. La prédestination est collective. Elle est individuelle, bien entendu. Bien entendu, il n'est pas... Voilà, je ne suis pas venu visiter l'Assemblée ici pour nier ça, hein. Pas du tout. Elle est individuelle, mais la dimension individuelle de la prédestination, de l'élection, du fait que Dieu m'a connu d'avance, m'a voulu d'avance, m'a choisi, avant, comme c'est écrit, avant la fondation du monde, mais c'est la dimension individuelle de l'élection, de la prédestination, n'est pas toute la dimension. L'élection est aussi, et me semble-t-il, premièrement collective. Alors pourquoi je dis premièrement collective ? Puisque quel est le but de l'élection ? Que des individus indépendants les uns des autres soient heureux dans le paradis ? Non. Qu'un collectif soit donné au Fils de Dieu. C'est ce que Jésus confesse dans sa prière. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et là, je pense que je suis en train de basculer dans la troisième partie. Tout a été créé pour lui. Et je pense que théologiquement, je pense que ça se tient de dire l'élection, la prédestination ont une dimension premièrement collective, puisque l'élection et la prédestination, c'est avant la fondation du monde, et que la Bible est claire que le dessein éternel de Dieu tourne autour de son Fils. Je reviens à Éphésiens 5, parce que tout en ayant un peu abordé la troisième partie, je pense dire quelques mots de plus sur la deuxième. C'est juste un peu reformulé et un peu explicité. Donc, Christ a aimé l'Église. Je vous avoue que je dis ces choses, mais je ne les comprends pas. Mon petit cerveau, il ne suit pas là, il ne suit plus. Parce que autant j'arrive à comprendre que quand il a été crucifié, il pensait à l'individu, un peu comme quand j'étais jeune chrétien, on m'a appris, tu prends Jean 3,16, afin que quiconque croit, et tu mets ton nom. Tu vois ? Au lieu de quiconque, tu mets Jean. Ou Blandine. Vous voyez ? Je me dis, oui, ça, j'arrive à comprendre qu'il me voyait d'avance. Et je suis débordé, dépassé, quand je me dis, mais Seigneur, tu es allé à la croix et tu voyais le collectif. Parce que c'est une... Déjà, au niveau rien que du nombre et tout, il y a une ampleur. Voilà. Mais surtout, est-ce que l'un des plus grands défis du peuple de Dieu sur la terre n'est pas l'unité? Jésus est allé à la croix et pour lui, il est allé pour l'une. L'une, celle qui est une, unie. Voyez? Et dans la prière de Jésus, Jean 17, c'est un focus qui revient afin qu'il soit un, qu'il soit parfaitement un. Comment un? comme toi et moi. Je vérifie quelque chose. Oui. Éphésiens 5, 26. Donc 25, s'est livré lui-même pour elle, a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain d'eau dans la parole, littéralement. C'est-à-dire que le verset, l'idée n'est pas qu'il y ait deux choses. La parole, l'eau d'un côté, la parole de l'autre, c'est un bain d'eau. C'est-à-dire que l'action de la parole de Dieu, Pierre amorce sa prédication de ce qu'est l'Évangile chez Corneille en disant « Dieu a envoyé la parole aux Israélites ». Vous voyez ? Bon, l'effet de la parole de Dieu, donc c'était Jésus, mais aussi, le « mais » n'a rien à faire au milieu. Jésus, inséparable des Écritures, si vous voulez. L'effet de la parole de Dieu, c'est comme un bain. Certains voient dans ce verset l'image d'un bain nuptial, avant le mariage. Évidemment qu'il faut arriver tout propre. Vous voyez ? Je pense que c'est juste. La sanctifier en la purifiant par le bain d'eau dans la parole. Pour se la présenter à lui-même, littéralement. Alors là, moi-même dans la colombe, dans certaines traductions, il y a pour faire paraître. Et on peut se précipiter sur ce verbe paraître comme si le but était que l'Église paraisse. Alors, c'est un but en effet, mais c'est un sous-but. Hein? La création entière attend la manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas le but ultime. Et ici, ce n'est vraiment pas paraître, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot de la famille de l'apparition en gloire, en lumière, comme l'apparition de Jésus quand il revient. Ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment se la présenter à lui-même. Mais ces quelques mots, se la présenter à lui-même, disent incontestablement que l'Église n'est pas un but en soi, n'est pas le but ultime de tout, qu'elle n'existe pas pour elle-même, mais pour lui. Et même, on peut dire, elle n'a de sens qu'en lui. Elle n'a d'identité réelle qu'en lui, Christ. Elle n'a d'existence qu'en lui. Si, je vais dire une énormité, si le Père et le Fils décidaient que, hop, c'est fini, on annule tout le dessein, et que, hop, Christ, il se retire. Mais l'Église n'existe plus. Les humains pourraient tout le temps faire des pieds et des mains pour s'agglomérer, tout ça, le mieux qui réussirait, c'est la tour de Babel. On ne veut pas disparaître, faisons-nous un nom. Pardon, excusez-moi. Il faut avoir pour l'Église du Seigneur universelle, et de même pour les églises locales, un amour profond, une tendresse, une patience, etc. Et pour l'Église dont je suis membre, l'Église locale dont je suis membre, sans pousser jusqu'à, comme une exagération, mon Église, notre Église, notre vision, notre renommée, notre... Vous voyez ? Parce que qu'est-ce qui teinte au bout de ce chemin? C'est la clochette idolâtrie. De même qu'il faut avoir beaucoup de... Il faut être paisible, que Dieu m'aime moi, sans basculer dans moi, mon, vous voyez, ma, mon, mes, tout, vous voyez? Parce que là, pareil, qu'est-ce qui teinte? L'idolâtrie. Vous savez que la plus grave idole, l'idole la plus nuisible du chrétien, quand c'est le cas, c'est sa propre personne. Heureuse la chrétienne, heureux le chrétien, qui n'est pas centré sur soi, il est indemne de la plus grave des idolâtries. La plus nuisible du moins, concrètement sur terre, pratiquement et concrètement nuisible. Se la présenter à lui-même. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Dans ce verset, ici, Éphésiens 5, c'est un futur. C'est un futur. Elle est qualifiée de glorieuse quand Jésus revient et se la présente. Donc, c'est la même chose qui est formulée quand la Bible parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, tous nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Voilà. Glorieuse. Cependant, Jésus a dit dans sa prière, je me réfère de nouveau à Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et de nouveau, pardon, les mots de la Bible doivent avoir pour moi le sens qu'ils ont eu pour leur auteur. Est-ce que quand Jésus a dit ça dans sa prière, il voulait dire que l'Église est déjà pleinement, absolument, parfaitement glorifiée et qu'il, j'allais dire, il n'y a plus rien à faire? Est-ce qu'il voulait dire, est-ce que c'est juste une figure de style? Vous comprenez, c'est une formulation impressionnante. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce qu'il faut lire ce verset de manière tout à fait abstraite, seulement au sens figuré? Autrement dit, en vérité, je crois qu'il ne nous a donné aucune gloire. Mais c'est une façon de dire que non plus. Vous voyez? Et que dit Jésus? Que fondamentalement, lui, il a tout fait. Et comme l'enseigne tout le reste de la Bible, et plus particulièrement ici du Nouveau Testament, il est en train de la rendre glorieuse. Et c'est pour ça que c'est écrit « Que tes progrès soient évidents à tous, que celui qui dérobait ne dérobe plus ». Etc. Glorieuse, sans tâche. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Qui soutiendra qu'au présent l'Église est sans tâche? Et qui soutiendra à l'inverse que quand Jésus reviendra, elle restera tachée? Ni ride. Sur terre, l'Église porte des marques d'usure. Et pas que les Églises qui existent depuis plusieurs siècles. Vous voyez? Mais l'individu, chaque membre, en porte des traces d'usure. Mais, quand il se la présentera à lui-même, zéro usure. Là, il ne s'agit pas de la souplesse de la peau, hein, vous aurez compris. En tout cas, il s'agit de plus. Voilà. Ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et là, de nouveau, sainte. Est-ce que les textes disent que l'Église est déjà sainte? Est-ce que les membres croyants sont déjà qualifiés de saints? Oui, amplement, souvent. Est-ce que les textes disent déjà que l'Église est sans défaut? Oui, voilà. Donc, bien que ce verset soit globalement au futur, il dit certaines choses dont la Bible affirme qu'elles sont déjà réelles au présent. Voilà, donc... Et tout ça, pourquoi? Pourquoi est-ce... comment dire? Comment je vais formuler ça? Si vous voulez, l'Église qui est déjà sainte, ce qui signifie prise en main par Dieu, saisie par Dieu, saisie par le Saint, ça veut dire ça, saint. Et mise à part, c'est le résultat. Du coup, ça la sépare de l'impureté et de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Ça la distingue, voilà. L'Église est sainte, en train d'apprendre à vivre en sainte. D'accord? Et qu'est-ce qui va l'aider? Ben, Dieu, évidemment, sa parole, son esprit, voilà. Il y a une chose qui est affirmée si souvent au sujet de Christ, parce qu'en fait, ce qui va l'aider, c'est le fait que Christ soit sa tête. C'est ça qui va l'aider. C'est ça qui l'aide. C'est pour ça que c'est dit, il est la tête, il est la tête, il est la tête. 1 Colossiens 1:18, Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, littéralement le mot tête ici, suprême, comme chef suprême. Et puis dans Éphésiens 1, chef suprême de l'Église, 1:22, qui est son corps. Elle existe parce qu'il y a la tête. Et Christ est chef de l'Église. Donc, c'est vers Éphésiens 5, 24. Alors, j'arrive au bout. Et en même temps, ça prépare l'étude biblique de cet après-midi. Où on va, si vous voulez bien, on va se plonger dans les lettres aux sept églises. Donc, Apocalypse 2 et 3. Qui sont impressionnantes. Et la première chose qui doit nous impressionner dans ces lettres, c'est ce que, bien sûr, le Seigneur a fait écrire à Jean en premier. Chaque fois, à chacune des lettres, ça commence comme ça, « Voici celui qui... » Et il y a quelque chose qui décrit Jésus. Voyez, et c'est alors donc les sept débuts, là, les sept manières dont Jésus se présente répètent en fait divers éléments de la vision qu'il a accordée à Jean au chapitre premier. Comment il apparaît? Et que dit Jean? Je suis tombé à ses pieds comme mort. Il y a plus que l'Église, et tellement plus. Alors, mais voilà, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Jésus avait expliqué à Jean que ce sont les anges, les sept, et puis celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, et il avait expliqué, ce sont les églises. Donc, qu'est-ce qui va aider l'Église, déjà qualifiée de sainte par Dieu, sanctifié par le sang de Jésus et par sa parole, comme dit Jésus, hein, sanctifié par ta parole, qu'est-ce qui va les aider à vivre, l'aider à vivre en sainte? Le fait que Jésus marche au milieu des églises. Autrement dit, avant même d'avoir dit quoi que ce soit à l'église, à telle ou telle église locale, donc Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., Jésus lui dit quelque chose de ce qu'il est lui. Ça n'étonnera pas. En tant que chrétien, nous ne nous étonnons pas de ça. Au contraire, moi, ça me fait danser. Enfin, j'ai plus beaucoup, je ne bondis pas très haut. Hein. Mais il posa sa main sur moi, dit Jean. Le sens ultime de notre création, de notre appel, de notre salut, conversion et de notre réunion en un seul corps, ou plutôt de découvrir qu'on est dans le collectif prédestiné, c'est d'appartenir au Fils. C'est qu'un collectif saint lui appartienne. Je vais finir avec une chose qui est une de celles qui m'a le et que j'ai bien sûr je l'ai lu comme vous tous x fois depuis longtemps, Jean 14, et c'est le verset 16 je crois. Non, c'est pas 16, hein, c'est 20. Alors, c'est Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va envoyer, le Père et lui vont envoyer le Saint-Esprit. Il le dit en plusieurs fois, de plusieurs manières, bon, voilà, et que c'est lui qui priera. Il dit, vous gardez ma parole et moi je prie, et le Père, il vous donnera. Et au verset 20, il dit, en ce jour-là, donc quand l'Esprit sera donné, donc à partir de Pentecôte, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. C'est là, chronologiquement, c'est la première chose que Jésus prononce au sujet de ce que l'Esprit Saint fera. Il vous fera connaître. Je commence par la fin, comme le plan, si vous voulez, de la prédication. Moi, l'Église, Christ. Je commence par la fin. Vous en moi, et moi en vous. Et ce « vous », là, c'est le collectif, mais ça inclut évidemment chaque individu, parce que l'Esprit est donné personnel sur la personne. Enfin, dans et sur, c'est égal. Dans les termes rigoureux du Nouveau Testament, ce n'est pas séparable, en et sur, au sujet du Saint-Esprit. C'est interchangeable, si vous voulez. Passons. Donc, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Désolé, hein, c'est la fin du message, il y a peut-être un peu de fatigue. C'est ce que Paul reformule ça en disant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire ça. Quand l'Esprit sera donné, vous connaîtrez que vous êtes en moi et moi en vous. Dans cet ordre. C'est aussi un ordre d'importance. Être en Christ, mis en Christ par Dieu, prime et est dit 10 fois plus souvent dans le Nouveau Testament que Christ en nous. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais le verset, là j'ai parlé de la fin de la phrase. Quel est le début? Qu'est-ce que Jésus dit en premier? En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père. Le premier effet du Saint-Esprit prononcé par Jésus, c'est qui nous focalise sur l'unité Père-Fils. Alors là, comme décentrage de soi-même, c'est gagné d'entrée. Hein. Et le Saint-Esprit faisant ça, mais tout est en place. Je suis paisible d'être aimé moi, tout en sachant qu'il y a plus que moi l'Église, et je l'aime et je la chéris, etc. Comme c'est écrit, et Paul le dit aussi, je vous chéris tous avec de la tendresse de Christ, comme ça, tout en sachant qu'il y a plus, et en étant heureux qu'il y ait plus. Et je peux témoigner humblement, et je veux pas qu'on ait de moi une... Paul écrit ça quelque part, je veux pas qu'on me considère au-dessus de ce que je suis. Mais je suis heureux que Dieu ait posé ça dans ma vie et que le centre d'intérêt de ma réflexion, de mon admiration, ce soit le rapport, ce soit l'amour de Dieu pour Christ. Et c'est vrai, je ne mens pas en disant ça. Le Père aime le Fils, cet amour est en amont de tous les autres. Et du coup, oui, je peux, je pourrais continuer, mais... À ce moment-là, tout est à sa place. Et on peut effectivement perdre sa vie pour l'Église. Un peuple, l'Église c'est aussi, quelqu'un d'entre vous l'a formulé comme ça, un peuple qui se sacrifie pour le Seigneur. Et le membre, il peut perdre sa vie pour l'Église et se retrouver à la fin tout usé, tout cuit, et dire « mais je n'ai même pas fait carrière, je n'ai même pas réussi ici, je ne me suis pas fait un nom. » Mais oui, mais... Et puis, il est tout reconnaissant d'avoir pu faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'Église n'existe pas pour elle-même. Et que, et l'Église, largement, localement, et l'individu, il trouve son bonheur parfait dans l'amour que le Père a pour le Fils. Et c'est la fin de la prière de Jésus dans Jean 17, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et comme ça, tout est à sa place, et on comprend ce qui est écrit. Dieu a fait les choses afin qu'il, Christ, soit en tout le premier.